D'hier et d'aujourd'hui sur France Bleu Gard-Lozère, votre magazine consacré au patrimoine, pour parler aujourd'hui de la Roque-sur-Cèze et des cascades du Sautadet avec mon invité Gérard Nignard. Bonjour.
Bonjour, bonjour et bonjour aux auditeurs.
Conseiller municipal de la Roque-sur-Cèze, universitaire et passionné d'histoire et de l'histoire de la Roque-sur-Cèze, j'imagine.
En particulier. Et l'histoire locale, évidemment.
Pour évoquer la Roque-sur-Cèze, on va peut-être présenter tout d'abord la commune de la Roque-sur-Cèze.
Bien évidemment.
Cet endroit magnifique.
Alors c'est un endroit qui est magnifique puisqu'il appartient aux 3 ou 4 petits villages qui sont classés parmi les plus beaux villages de France, du Gard. C'est un village tout à fait typique, avec ses rues pentues, ombragées, son vieux château, et puis, bien sûr, cette fameuse vallée de la Cèze, verdoyante, et ces mythiques chutes des cascades du Sautadet, qui attirent chaque année de plus en plus de monde, baigneurs et malheureusement parfois imprudents qui prennent des risques et on voit les accidents qui s'y produisent.
On aura l'occasion d'en reparler. Vous vous êtes intéressé à l'histoire de ce village depuis longtemps, vous ?
Moi, j'habite à La Roque depuis à peu près 17 ans, mais j'étais gardois bien avant, donc je connais très bien La Roque. Et c'est vrai que La Roque est un village qui mérite une histoire et nous avons la chance d'avoir une historienne, Monique Frac d'Escazo, qui a écrit il y a quelques années un livre superbe, « Vivre à La Roque sur 16 » entre Cévennes et Provence au XVIIIe siècle. Et c'est un peu inspiré du modèle de Leroy Ladurie lorsqu'il avait fait Montaillou, village occitan. Et un de mes amis, un Nîmois, Christian Giudicelli, prix Renaudot, a accepté de faire une superbe préface donc à cet ouvrage qui, je le recommande à tout le monde, est vraiment indispensable pour quiconque s'intéresse à la vie de La Roque, mais également la vie dans les petits villages de Cévennes et Gard.
On peut décrire un petit peu le décor de la Roque-sur-Cèze et aux alentours, à quoi ça ressemble ?
La Roque-sur-Cèze est un village qui se trouve sur un roc, bien évidemment. En haut de ce vieux village se trouve le château, un château médiéval qui est malheureusement ou heureusement privé, et qui est donc fermé au public, avec une chapelle superbe qui a été restaurée, mais qui est également fermée au public pour différentes raisons.
Un village très fréquenté par les touristes. Combien d'habitants à l'année ?
Alors, oui, ça c'est...
Parce qu'il doit y avoir un décalage.
Ah ben, un décalage énorme, énorme. En effet, il y a à peu près 180 habitants, votants tout au moins, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont tous résidents. En disons, en période creuse, autour d'une centaine de personnes, des deux rives de la Cèze, et j'insiste, car La Roque, c'est les deux rives de la Cèze. Bien sûr, la période estivale, alors là, ça explose, on peut monter jusqu'à 400, 450, sans compter les campings.
C'est important d'être le plus beau village de France, ça vous a apporté quelque chose ?
Alors, ça c'est une question...
C'est à double tranchant ?
Qui peut être à double tranchant. Bien sûr, c'est un plus, mais ça entraîne des contraintes par ailleurs, puisque ça entraîne la venue de nombreux touristes, qui sont passionnés, qui regardent sur leur carte de France, et qui font les plus beaux villages de France, ce qui entraîne un afflux de voitures. Et le problème de La Roque, c'est le passage du vieux pont. Le vieux pont dit Charles Martel, on ne sait jamais pourquoi il s'est appelé comme ça.
Ah bon, d'accord.
Le pont Charles Martel a été donc endommagé en 2002 par les crues, puis en 2003 par un camion fou. Et la municipalité donc a réussi, après 10 ans d'efforts, à faire refaire ce pont qui est magnifique. Mais c'est un vieux pont.
Donc il est fragile ?
Il n'est pas fragile, il est bien sécurisé. Mais imaginez le flot de touristes des deux côtés. En juillet et août, c'est infernal et c'est le seul, comment dirais-je, lien vital des deux rives. Donc là, ça pose un problème.
Vous voyez, ça, c'est un passage indispensable.
Ah ben indispensable.
Et un peu trop fréquenté par moment.
Très fréquenté. Ça, c'est le revers d'être un des plus beaux villages de France. Donc petit détail, vous savez qu'il y a toujours des légendes. On raconte que Hannibal est passé là et que sa fille, sur un éléphant, aurait été emportée et serait morte. Il y avait une pierre, paraît-il, qui rappelait cet événement. Certainement que c'est une simple légende apocryphe. Mais il y a dans les villages aux alentours, comme Saint-Michel-de-Zé, des chemins qui s'appellent chemin des Carthaginois. Alors je laisse à un historien le plaisir de découvrir la vérité.
La Roque-sur-Cèze, dont on parle aujourd'hui sur France Bleu Gard-Lozère, dans votre magazine d'hier et d'aujourd'hui. On va parler des moulins et des cascades du Sautadet d'ici quelques instants avec Gérard Nignard, conseiller municipal de La Roque-sur-Cèze et universitaire. Hier et d'aujourd'hui sur France Bleu Gard-Lozère, il est question de la Roque-sur-Cèze aujourd'hui, des cascades du Sautadet, de l'histoire des moulins également, avec mon invité Gérard Nignard, conseiller municipal et universitaire. Les moulins, oui, tiens, si on parlait de moulins, on ne peut pas parler de ce lieu, des cascades du Sautadet, sans évoquer le moulin, ou ce qu'il en reste en tout cas.
Voilà, alors c'est une histoire fabuleuse. Et j'ai réussi à trouver, grâce à des recherches et à l'aide de beaucoup de personnes anciennes, j'ai retrouvé l'histoire de ce moulin qui est en ruine actuellement, qui est juste en face du Sautadet. Ce moulin, eh bien, c'est un Nîmois qui, dans les années 1850, l'a acheté, un certain Magnien, Jean Magnien, 1811-1871, qui avait des propriétés à Nîmes, dont des moulins. Ce monsieur Jean Mayen donc a acheté les terres, a créé un moulin à l'origine pour le blé, pour lui légalement, puisque c'était à l'époque la culture. Puis, après beaucoup de déboires, il a passé le relais à son fils, qui lui était un jeune homme dynamique, ami de Fabre, l'entomologiste, et qui a décidé, lui, de faire un moulin à ocre. Donc il a acheté des turbines, il a acheté des roues spéciales, et je rappelle ce célèbre proverbe de Louis Bonnefoy, puisque l'ocre était la richesse de la France, enfin de cette région, comme Roussillon, bien sûr, Roussillon du Gard. Donc voilà ce petit poème. Entendez-vous le bruit de ce moteur qui fait notre bonheur? Il monte l'eau qui coule, rousse comme l'or, et qui remplit nos coffres forts. C'était un poète, mais c'était également un homme qui avait un moulin à ocre. Donc Magnin, Pierre Magnin, fils de Jean Magnin, va faire fortune en vendant de l'ocre, mais dans le monde entier. Donc il faut savoir que cette petite route qui longe le Sautadet, les gens ne le savent pas, mais c'était à l'époque quasiment une autoroute, bien sûr avec des chevaux, des bœufs.
Très fréquentés,
puisqu'il y avait des convois qui venaient chercher l'ocre moulu et qui l'amenaient bien sûr à Marseille, dans tous les grands ports. Et cet ocre partait en Russie, aux États-Unis. Puis fatigué également parce qu'il y avait une rivalité avec un autre moulin qui se trouvait en amont. Donc Pierre Magnin a décidé de passer la main et de vendre ce moulin. Alors les gens qui iront au Sautadet verront les ruines et ils penseront que ces ruines étaient vraiment une ruche à l'époque. C'était une vraie... ça bourdonnait d'activité. Il y avait une cantine tous les jours. Il y avait donc des convois entiers qui venaient chercher l'ocre. Il a vendu ce moulin à des Suédois. Et c'est une aventure extraordinaire parce que ces Suédois étaient des aventuriers de l'économie qui avaient décidé de faire de ce moulin une usine de carbure de calcium. Alors pourquoi le carbure de calcium? C'est tout simple. C'est parce qu'avec le carbure de calcium, on faisait l'acétylène. Et l'acétylène, à cette époque, était utilisé pour éclairer les villes, pour les mines et pour les militaires. Donc Adolf Silvander, ce Suédois, avait décidé d'acheter ce moulin et d'en faire donc une usine de carbure de calcium. Bien évidemment, comme à chaque fois que quelqu'un veut faire avancer la science, il s'est heurté aux paysans, de certains paysans, pas tous, qui ont fait courir le bruit que les fumées de cette usine allaient tuer leurs vaches, leurs poules, leurs cochons, etc.
Ah, il y a eu de la résistance locale.
Ah, mais il y a toujours des résistances locales dans ces petits villages, ça je peux vous dire pourquoi que vous fassiez. Donc, mais par contre, il y avait un autre problème qui était beaucoup plus sérieux. S'il y avait eu des crues importantes, le carbure de calcium, pardon, aurait été emporté par les crues et il y aurait pu avoir des risques de réactions chimiques et tous les environs auraient été recouverts de chaux vives parce que c'est une des réactions donc du carbure de calcium et de l'eau.
Donc il y avait un danger, il y avait un risque.
Il y avait un danger. Sylvander a essayé pendant 2-3 ans de se battre, mais face aux difficultés, il a jeté l'éponge et ce moulin, il est maintenant abandonné. Donc que tous ceux qui passent devant aient une pensée pour ces ruines qui ont été très très actives au siècle dernier.
Mais qu'est-ce qu'il en reste de ce moulin aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut voir?
On voit simplement, vous l'avez sur la photo ici.
Voilà, on va la décrire, ce sera plus simple.
Oui, pour la décrire, oui, bien sûr. Et oui. Donc on voit donc les ruines, on voit où il y a un chenal qu'on voit toujours, qui a été creusé avec l'accord donc de Napoléon III en 1865-6, si j'ai bonne mémoire, pour amener l'eau donc à ce moulin. On voit très bien le tracé, ça a été creusé par l'homme. Et puis on voit donc un petit peu quelques ruines de ce moulin. Mais bon, il reste peu de choses et puis la nature petit à petit l'envahit.
En tout cas, sachez qu'il a une histoire
fabuleuse.
Que l'on peut retrouver d'ailleurs dans un petit ouvrage que vous avez...
Les gens qui seraient intéressés peuvent se procurer cette remarquable revue, et je dis bien remarquable, c'est la revue Rodani, qui s'adresse à tous les passionnés de défense du patrimoine du Gard rodanien. Et cette revue Rodani, on peut la trouver à Bagnoles, bien évidemment sur 16, où on peut s'adresser à monsieur Dominique Canot, qui habite à Gaujac, dont le téléphone est le 04 66 39 21 60. Il y a eu beaucoup d'articles sur la roque que nous avons écrits. Par exemple, le jour où la roque a failli être détruite en août 44 par le bombardement des Américains. Les grands écrivains qui ont vécu à la roque, car nous avons eu beaucoup de grands écrivains, en particulier Jean Paulhan, l'académicien français, qui a vécu à La Roque plusieurs fois, qui venait souvent. Et nous avons une carte postale superbe de lui, adressée à un de ses amis de l'ANRF, où il parle du site du Sautadet qui sent bon le thym et la Provence.
Voilà, en tout cas pour le moulin Magnien, c'est comme ça.
C'est le moulin Magnien, oui. Jean Magnien à l'origine, Pierre Magnien après, et après la famille Sylvander.
D'ici quelques instants, les cascades incontournables du Sautalet avec ses marmites. On en parle sur France Bleu Gard Lozère dans d'hier et d'aujourd'hui. Hier et d'aujourd'hui sur France Bleu Gard Lozère, troisième et dernière partie de votre magazine consacré au patrimoine. Nous nous sommes installés aujourd'hui à La Roque-sur-Cèze pour vous parler du moulin, on vient de l'évoquer, de l'histoire de La Roque-sur-Cèze et puis bien sûr de ce site extraordinaire et incontournable, les cascades du Sautalet. Gérard Lignard, vous êtes conseiller municipal de La Roque-sur-Cèze et universitaire. Décrivez-nous ce lieu et expliquez-nous un peu son histoire. Un lieu unique, non ?
Ah, c'est un lieu qui est mythique hein, depuis toujours, puisque nous avons des documents que Madame Monique Frac d'Escazo, historienne de La Roque, a retrouvé. Dès les années 1500-1600, il y a des preuves écrites que cet endroit était très fréquenté pour la pêche, bien évidemment, mais également pour différentes raisons, dont les fameux moulins qui étaient placés sur ces sites. Alors, le Sautalet, c'est donc la 16, qui a creusé sur à peu près une longueur de 470 mètres des chenaux et des cavités, que l'on appelle des marmites de géants, et qui finissent par se rejoindre et forment de superbes crevasses dans lesquelles la rivière s'engouffre. Il est évident que, en période de crue, de nombreux amateurs de photographie viennent. Ils peuvent faire des photos extraordinaires.
C'est magnifique.
C'est magnifique. Avec le coucher de soleil et l'écume, c'est un endroit qui attire les passionnés de la photo. Alors, ces marmites de géants sont des cavités cylindriques ultra dangereuses. Et malheureusement, je suis obligé d'en parler parce que nous sommes à la mairie de La Roque confrontés à ce problème.
Il y a des accidents régulièrement.
Voilà, c'est interdit. Il y a des panneaux. La mairie a mis des panneaux interdits de plonger, danger. Il y a actuellement, si ma mémoire est bonne, plus de 20 morts en 30 ans, ce qui est dramatique. Hein. Tout le monde se rappelle le drame de cette petite gamine qui a glissé, qui est morte, de son grand-père et de ce remarquable lieutenant de pompiers qui a perdu la vue également pour essayer d'intervenir. Donc, cette année encore, nous en sommes au troisième accident par des imprudents qui ne respectent pas ces consignes de sécurité et qui sont de plus en plus nombreux, malheureusement, sur le lieu.
On a l'impression que ce sont des petits bassins, des petites piscines, mais c'est bien plus dangereux.
C'est bien plus dangereux. Elles sont très profondes, et malheur à celui qui rate sa chute, parce qu'il peut se fracturer le crâne, comme celui du vendredi 13 juin, ou, pire encore, être emporté au fond, et s'il est au fond, il y a tellement de pression, de remous, qu'il ne pourra pas remonter. On retrouvera son cadavre, comme ce fut le cas jadis, quelques jours après.
Donc soyez prudents si vous y allez, mais allez voir quand même ce lieu.
Ah oui, parce qu'il y a baignade après. À la sortie du Sautalet, donc il y a une plage très agréable où les enfants.
Où là c'est sécurisé, il n'y a pas de problème.
Tout à fait. C'est sécurisé, non. Il n'y a pas de garde, il n'y a pas de
personne. Non, il n'y a pas de risque, je veux dire.
Il n'y a pas de risque. Mais surtout pas sauter dans les cascades.
Voilà. Ces cascades, elles sont évidemment très belles. Elles ont évolué avec le temps.
Bien sûr.
Comment le site se modifie ?
Eh bien, avec le temps, ces cascades, bien sûr, lorsqu'il y a des fortes crues, elles continue avec l'érosion.
Ça bouillonne un peu.
Ça bouillonne, bien évidemment, et c'est magnifique à voir, avec toute précaution, parce qu'il ne faut pas glisser. Hein. Ces cascades du Sautalet, donc, sont alimentées par la rivière La Cèze. La Cèze qui prend sa source en Lozère, à Saint-André-Cap-Cèze, et qui se jette dans le Rhône à Codolet. Donc La Cèze est une rivière très capricieuse, qui peut être très agréable, mais qui peut devenir furieuse, comme en 2002, où il y a une crue terrible dont tous les gens se souviennent.
Bon, ben voilà, endroit à visiter cet été avec respect et prudence, les cascades du Sautalet. La Roque-sur-Cèze, on situe le village d'ailleurs.
Alors, La Roque-sur-Cèze se trouve également à 7 km de Bagnols-sur-Cèze. C'est un endroit qui est fléché, il y a une signalétique importante. Et les gens qui viendraient dans la région peuvent également découvrir d'autres villages dont je fais la publicité, tout à fait mérité, comme Montclus, également un très beau village qui est un peu plus haut sur la Cèze. Lussan, magnifique village. Aiguèze, magnifique village également sur les gorges de l'Ardèche. Tout ceci peut se faire dans la même journée et ça permettra aux amateurs de nature et surtout d'amoureux du patrimoine de voir un petit peu que certains, comme la municipalité actuelle, essayent de défendre et de promouvoir.
Voilà pour quelques idées de sortie. Merci en tout cas Gérard Lignard, conseiller municipal de La Roque-sur-Cèze et universitaire, d'être venu nous parler de La Roque-sur-Cèze et de ces fameuses cascades du Sautalet d'hier et d'aujourd'hui sur France Bleu Gard Lozère.